1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu de notre invité culture. Ce sera aux alentours de 10h20. Mais avant cela, Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Eva Rock, le zapping du lendemain. Et je n'oublie pas le journal des médias de Charles de Caen qui évoquera évidemment Juliette Gréco. Nous sommes ensemble pour 2h en direct. Et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque ou les parties qui vous manquent sur Europe1.fr. Notre infomédia avec une question qui fait froid dans le dos à l'heure où on cherche partout de la vie extraterrestre et des exoplanètes. Et si la Terre était unique? C'est le titre d'un passionnant documentaire de France 5. Son auteur, Laurent Lichtenstein, sera notre invité. Ensuite, encore une nouvelle émission d'immobilier à la télé. Une de plus? Pas du tout. Car l'agence ne traite que de l'immobilier de luxe, de grand, grand luxe. Avec à sa tête une famille pas comme les autres, c'est un peu comme si on avait croisé Stéphane Plaza avec les Kardashians. Sandrine, la maman, Martin et Valentin, et encore ils sont pas tous là, seront dans ce studio. Et j'ai l'impression qu'un studio, ils vont trouver ça un peu petit. Enfin, le romancier à succès Franck Tilliez, mais pour une BD, le tome 4 de la Brigade des Cauchemars. Écoutez-le avec attention, il y a 5 ans, dans son roman Pandemia, Franck Tilliez avait très précisément décrit l'existence d'un virus qui part des animaux sauvages et qui se répand sur toute la planète. Je dis ça, je dis rien. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles de Caen.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
Le Premier ministre face aux Français, un hommage à Juliette Gréco, des nouvelles des confinés et le casse-tête des studios de cinéma.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Pas de surprise en tête puisque France 2 proposait un épisode inédit d'Alex Hugo. La série française s'est largement imposée avec 5,6 millions de téléspectateurs au compteur, soit 26,1% de part d'audience, un nouveau carton.
Et Alex Hugo, dont le scénariste n'est autre que Franck Tilliez, notre invité de la deuxième heure.
Deuxième, TF1 poursuivait la diffusion de The Resident saison 2. Les deux épisodes inédits ont été suivis par 3,3 millions de téléspectateurs, soit 15,7% du public. Comme chaque semaine, la série est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 30% de part d'audience. Et c'est France 3 qui a pris la troisième position avec Des Racines et des Ailes. Le magazine de Carole Gessler a fédéré 2 millions de téléspectateurs, soit 10,2% du public.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias par la disparition de Juliette Gréco.
C'est la fête aux copains, c'est la fête à Pantin, c'est la fête à Paname.
On a appris hier en début de soirée le décès de la chanteuse à l'âge de 93 ans. Faite commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2016, Juliette Gréco était une figure majeure de la chanson française. Elle avait ému le public français mais aussi international en chantant notamment les textes de Jacques Prévert, Boris Vian ou encore Léo Ferré.
Et Juliette Gréco était également comédienne.
Oui, on a surtout retenu son rôle dans la série télé Belphégor ou Le Fantôme du Louvre, dont les 4 épisodes ont été diffusés en 1965. Il s'agit de sa seule apparition dans une fiction télé. Mais la chanteuse s'est aussi illustrée au cinéma dans une trentaine de films tournant pour Melville, Cocteau ou encore Renoir. Ce matin, vous n'avez pas pu passer à côté de la une de Libération. Avec ce titre, Juliette Gréco, nous vous aimions, en
magnifique
référence à la javanaise de Gainsbourg qu'elle avait reprise. Et la télé lui rendra aussi hommage. Hier soir, à la fin de son 20h sur France 2, Anne-Sophie Lapix a annoncé que France 3 proposerait une soirée spéciale consacrée à Juliette Gréco ce vendredi.
Et on reste à France Télévisions avec le retour de la politique ce soir en prime time sur France 2.
Léa Salamé et Thomas Soto seront aux commandes ce soir à 21h05 du premier numéro de la saison de Vous avez la parole. Et pour sa rentrée, le magazine politique qui avait été lancé l'année dernière accueillera Jean Castex un peu moins de 3 mois après sa nomination au poste de Premier ministre. C'est un moment important pour le successeur d'Édouard Philippe, comme l'a expliqué Léa Salamé à Louise Bernard.
Il reste un inconnu pour beaucoup de Français. Il a été nommé le 3 juillet dernier et c'est sa première vraie grande prise de parole et donc prise de risque. Il a été accueilli avec un climat plutôt bienveillant il y a 3 mois, mais aujourd'hui les problèmes commencent, si j'ose dire. D'abord, il y a l'ombre tutélaire du très populaire Édouard Philippe qu'il va devoir effacer ce soir. Il y a aussi les égaux et les grandes gueules dans son gouvernement, Dupond-Moretti contre Darmanin, etc. Et je peux vous dire que à la fois Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin seront dans le public, il viendra avec des ministres, c'est assez rare pour le souligner, ils viendront, je ne sais pas s'ils seront à côté, mais en tout cas ils viendront, et donc il va devoir montrer, ce Premier ministre, qui il est, ce qu'il a dans le ventre, et aussi s'il a suffisamment d'autorité pour tenir son gouvernement.
L'an dernier, Vous avez la parole a enregistré des audiences très inégales et assez modestes sur France 2, oscillant entre 1,2 et 2,2 millions de téléspectateurs sur ses 7 numéros. Du coup, l'émission évolue en cette deuxième saison pour impliquer plus encore les Français.
C'est pas que le Premier ministre, pas l'émission du Premier ministre, c'est vraiment la confrontation et le face-à-face avec les Français. On essaye, avec Thomas Soto, de réfléchir vraiment au titre de notre émission. Vous avez la parole. Et le « vous », c'est Jean Castex, mais c'est pas seulement Jean Castex, c'est aussi les Français. Et on va vraiment, plus encore que sur les autres émissions, donner la parole aux Français. Des Français qui seront face à lui sur le plateau, par exemple, une grand-mère qui n'a pas supporté la phrase « Les papiers et mamie, vous serez gentils de ne pas aller chercher vos petits-enfants à l'école ». Il y aura aussi des Français qui seront en direct avec nous de Grenoble sur le thème de l'insécurité. Vous savez, Grenoble, on en a beaucoup parlé cet été sur l'insécurité. On va donner la parole aussi à des ouvriers de Bridgestone qui ont des choses à dire au Premier ministre. Et puis enfin, les téléspectateurs pourront poser leurs questions à travers le hashtag « On vous répond » et on donnera leurs questions également au Premier ministre.
Mais Jean Castex ne sera pas confronté qu'aux journalistes ou aux téléspectateurs. Vous avez la parole à également convier 4 maires de sensibilités politiques différentes. Le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, qui a fait beaucoup parler en appelant à supprimer le sapin de Noël de la ville.
Mais oui, l'arbre mort.
Le fameux. Mais aussi Robert Ménard, le maire de Béziers, Johanna Roland, la maire de Nantes et David Lisnard, le maire de Cannes. Et pour attirer les plus jeunes ou les plus geeks, au choix, ou les deux d'ailleurs, l'émission sera commentée en direct sur Twitch par le streamer politique Jean Massier. Rendez-vous ce soir à 21h05 sur France 2.
Il est excellent Jean Massier, il était sur LCP, on l'avait reçu justement pour en parler, la manière dont il a de parler nouvellement, modernement, si j'ose dire, de la politique. Bonne nouvelle, l'équipe de La Quotidienne va bien.
Depuis jeudi dernier, Maïa Loquet, Thomas Isle et tous les chroniqueurs de l'émission de la mi-journée de France 5 étaient à l'isolement, on en a parlé en fin de semaine dernière. Un de leurs invités a en effet été testé positif au coronavirus et toute l'équipe a donc été considérée comme cas contact et placée en quarantaine. Mais comme l'a révélé Le Parisien hier, les résultats des tests de tout ce petit monde sont négatifs, ce n'est pas une grande surprise. La semaine dernière, Thomas Isle le soulignait déjà, toutes les précautions prises sur le tournage, une table plus large et un canapé plus grand pour accroître les distances entre chaque membre de l'équipe, des masques dès qu'on quitte le plateau. Bref, les gestes barrières ont été respectés et le Covid-19 n'a pas circulé.
Et donc, c'est le retour des inédits dès aujourd'hui.
Et non, il faudra attendre lundi pour retrouver La Quotidienne en direct sur France 5. Demain, tout le monde sera à pied d'œuvre pour enregistrer de nouvelles émissions, mais elles seront mises de côté au cas où la situation se reproduit, ce qui n'est pas exclu vu la progression de la pandémie.
Et on ne change pas de sujet, les nouvelles sont bonnes aussi pour Laurence Ferrari.
Et oui, même schéma pour l'animatrice de Punchline sur CNews, on en parlait lundi. La journaliste avait interviewé Bruno Le Maire jeudi dernier et le ministre de l'économie avait ensuite été testé positif au coronavirus. Même punition donc que l'équipe de La Quotidienne. Laurence Ferrari a été mise à l'isolement, elle a donc dû laisser les rênes de l'interview politique de la matinale de CNews à Gérard Leclerc, tandis que Patrick Boisfer a animé Punchline lundi et mardi. Elle avait donc été testée vendredi, elle a été retestée mardi. Dans les deux cas, les résultats étaient négatifs. La journaliste a donc repris le chemin des studios de CNews dès hier.
Et en parlant de studios, dans les studios de cinéma, on s'arrache les cheveux.
Vous savez, les calendriers de sortie au cinéma se prévoient très très en amont.
Ah oui.
Les studios américains calent parfois leurs dates des années en avance, mais la pandémie est venue bouleverser tous leurs projets. Au printemps, déjà, la sortie du dernier James Bond et celle de Mulan avaient été les premières à être décalées. Et depuis, rien ne sort. Seul blockbuster à avoir tenté sa chance en salle, Tenet de Christopher Nolan, sorti fin août. Compte tenu des circonstances, les 250 millions de dollars engrangés depuis sa sortie sont plutôt encourageants, mais pas suffisants pour générer un bénéfice. Ce test a donc convaincu tous les studios de repousser les grosses sorties prévues dans les semaines et dans les mois à venir.
Vous voulez dire qu'on n'aura donc aucune grosse nouveauté d'ici Noël ?
Bah, ça semble mal parti, encore plus depuis les annonces de Disney hier. Le studio a officialisé une série de décalages auxquels on s'attendait malheureusement de plus en plus. Black Widow, le prochain Marvel avec Scarlett Johansson. Il devait arriver dans les salles obscures en novembre prochain, il ne sortira finalement qu'en mai. La nouvelle version de West Side Story, signée Steven Spielberg, était pour sa part attendue en décembre, mais Disney la dévoilera finalement un an plus tard, en décembre 2021. La punition est moins sévère pour Mort sur le Nil, nouvelle adaptation d'un roman d'Agatha Christie par Kenneth Branagh, attendu le 14 octobre dans les salles de l'Hexagone. Le film sortira finalement au mois de décembre. La date française précise n'a pas encore été révélée.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
On nous le répète tous les jours, le réchauffement climatique menace notre planète. Et si certains espèrent que le salut se trouve ailleurs, dans une autre galaxie, ils risquent d'être déçus en voyant ce soir « Et si la Terre était unique ?» documentaire diffusé à 21h sur France 5. Car la Terre est un miracle cosmique, né grâce à une série de hasards et de coïncidences il y a plus de 4 milliards d'années. De nombreux astronomes, des biochimistes, astrophysiciens ont cherché et cherchent encore aux confins de l'espace un Éden semblable au nôtre, où il a fallu un nombre incalculable de paramètres afin que la vie y apparaisse et d'en arriver à cette conclusion sous forme de question. Et si la Terre était unique ? Bonjour Laurent Lichtenstein.
Faut que j'arrive. Bonjour Philippe.
Faut pas que j'écorche votre nom. Vous êtes l'auteur de Si la Terre était unique, après avoir réalisé de très nombreux documentaires, dont On a marché sur Mars, c'était en 2019, Destination Lune ou encore Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? Depuis le temps que cette question semble vous tarauder, quelle réponse avez-vous obtenue, si tant est que vous ayez obtenu des réponses ?
Eh bien, tant et non, je n'ai pas obtenu de réponse. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Je crois même que quelqu'un qui dirait « oui, il y a de la vie ailleurs dans l'univers », « non, il n'y a pas de vie ailleurs dans l'univers », serait à la limite de la fumisterie. Mais ce que nous avons fait, en fait, dans notre documentaire, et si la Terre était unique, c'est d'inverser la perspective et tenter de débaucher des réponses à cette question d'une nouvelle manière.
L'eau est un élément essentiel pour la vie, j'apprends rien à personne, et on apprend grâce à vous que les volcans sont pour beaucoup dans l'apparition de l'eau sur Terre, grâce aux vapeurs dégagées au cours d'innombrables éruptions, mais surtout, on apprend que les océans se sont formés grâce à une météo déplorable.
Il y a 4,4 milliards d'années, grâce au panache des volcans, le ciel de la Terre change. Il se charge de nuages. Et bientôt, des pluies diluviennes s'abattent à la surface. Il pleut pendant des millions d'années. Les premiers océans se forment, mais à peine nés, ils risquent de se volatiliser.
Il a donc plu pendant des millions d'années. Question, comment apprend-on ce genre d'informations ? Comment vous avez travaillé ? Comment les chercheurs peuvent-ils savoir ?
Eh bien, on a travaillé avec des grands esprits scientifiques dont la science française regorge, des gens, des planétologues comme François Forget, par exemple. Et en fait, en examinant les roches, on a retrouvé des traces de gouttes de pluie à la surface de roches. Et en datant ces roches, on arrive à savoir qu'il a plu pendant très très longtemps. Oui. Il y a différents procédés qui ont permis de savoir qu'effectivement, il a plu pendant très longtemps, c'est-à-dire que la météo sur Terre était vraiment pourrie pendant longtemps.
Je pense à Laurent Cabrol, des millions d'années de pluie,
ça tu fais du boulot inverse. En même temps.
Alors, pour illustrer vos propos, vous êtes allé tourner au Mexique, vous observez là-bas les volcans, la végétation, la faune animale, les roches. Pourquoi le Mexique ? Moi, je croyais que c'était l'Afrique, le berceau de l'humanité.
Oui, alors, on n'a pas cherché forcément le berceau de l'humanité, on a été quelque
part... Vous avez cherché le moins cher ?
Non, le Mexique est quand même un endroit qui est assez compliqué pour y aller, et puis... Mais en fait, ce qui nous intéressait, nous, c'est pas forcément, vous avez raison, l'Afrique, la vallée de l'Omo, par exemple, c'est le berceau de l'humanité. Mais nous, en fait, on est remonté beaucoup plus loin. Parce que l'humanité, elle a quel âge, à votre avis ? Elle a quel âge, l'humanité ?
J'ai toujours peur. En millions, en milliards, je me trompe toujours. Mais vous êtes remonté avant. Vous êtes remonté au premier biosystème.
Voilà, c'est ça. L'humanité, c'est 400 000 ans. Nous, on est remonté beaucoup plus loin. On est remonté jusqu'à 4 milliards d'années pour essayer de comprendre comment la vie était apparue sur Terre.
Quand vous évoquez l'apparition d'êtres vivants, vous filmez des éléphants, des serpents, des singes, un peu comme vous souhaitiez beaucoup d'étapes, pourquoi vous n'avez pas montré des images, parce que j'imagine que c'est un choix même, des images de synthèse, de dinosaures ou de diplodocus ?
Eh bien, c'est pareil, les dinosaures et les diplodocus, il y a un biais un petit peu dans notre manière de réfléchir. Les dinosaures et les diplodocus, vous l'avez dit tout à l'heure, on mélange les millions, les milliards, on a du mal avec même les centaines de milliers. Et finalement, les diplodocus, les dinosaures, c'est relativement récent. C'est quelques 80 millions d'années, 100 millions d'années. Nous, on réfléchit à 4 milliards d'années. La vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années.
En même temps que l'eau. Enfin, à la suite de l'eau.
Voilà, exactement. Les deux se sont enchaînés puisque l'eau est une condition indispensable pour que la vie apparaisse.
Qu'est-ce qui vous fascine dans cette histoire de l'eau ?
Eh bien, l'eau, en fait, nous raconte l'histoire de la vie sur Terre. Pour une fois, les scientifiques sont d'accord. Alors, profitons-en, puisqu'ils sont quand même assez rarement d'accord. Ils sont d'accord pour dire l'eau est essentielle pour que la vie apparaisse sur Terre. Je ne sais pas si, quand vous étiez enfant, vous jouiez au Lego, par exemple.
Évidemment, oui.
Vous jouiez au Lego.
Oui.
Eh bien, par exemple, si vous êtes dans votre bain, vous rappelez-vous, vous aviez 4-5 ans, vous étiez dans votre baignoire, vous jouez au Lego, vous avez des briques bleues, vertes, rouges, eh bien elles flottent devant vous et vous pouvez les prendre et les assembler. Eh bien la vie, c'est exactement ça. Quand ça commence, c'est des petites molécules qui s'assemblent, c'est un jeu de construction et ça devient des grosses molécules, ça devient des protéines qui après peuvent donner l'ADN. Par contre, si pendant l'été, vous étiez par exemple à Trouville et qu'il y avait du sable, et là, vous avez les mêmes briques de Lego, eh bien le sable résiste, il vous empêche d'assembler les briques élémentaires de votre Lego, et en l'occurrence, les briques élémentaires de la vie. Donc l'eau permet aux molécules de flotter et donc d'être libres et de s'assembler. Donc de l'eau liquide est essentielle pour que la vie apparaisse.
Alors on sait que les dinosaures ont disparu à la suite de la chute d'une météorite il y a 65 millions d'années. Phénomène moins connu que vous racontez, la Terre a été heurtée par une autre planète, un impacteur comme on dit, Theia, il y a des milliards d'années. Or, cet impacteur avait la taille de Mars. Question toute bête, comment se fait-il que la Terre n'ait pas été totalement détruite ?
Eh bien c'est juste du bol. On a eu un coup de bol. Et en fait, là, vraiment, c'est aussi la philosophie, le message qui est dans notre documentaire, c'est que nous sommes tous les enfants du bol. Nous avons eu beaucoup de chance. Pour que la vie puisse apparaître sur Terre, il a fallu qu'il y ait un enchaînement incroyable de hasards et de coïncidences et de catastrophes bénéfiques. Parce que Théa, elle nous a percuté juste avec le bon angle. Si Théa nous avait percuté plus de face, la Terre aurait été vaporisée et nous ne serions pas là. Si la trajectoire avait été un tout petit peu plus rasante au moment de l'impact, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, Théa aurait rebondi et serait partie. Et qu'est-ce qu'on aurait perdu dans tout ça?
La Lune?
Exactement, Philippe. Nous n'aurions pas la Lune. Or, la Lune fait partie de tous ces paramètres qui semblent essentiels pour que la vie apparaisse sur Terre. Puisque la Lune permet les marées, donc le brassage, l'oxygénation des océans. Et puis la Lune a permis aussi la stabilisation de la Terre. Quand on regarde Mars, Mars c'est le foutoir. Eh bien, le pôle de Mars se balade sans arrêt, alors que sur Terre, la Terre est verrouillée par la Lune et le climat reste constant.
Vous savez quoi? Vous êtes aussi passionnant que votre documentaire. Vous restez
Merci
avec
Philippe.
Nous, Laurent Lichtenstein, avec nous dans Culture Média, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Laurent Lichtenstein avec nous, réalisateur du documentaire « Et si la Terre était unique ?» Nous parlions de la Lune. J'ai découvert aussi grâce à vous que la Lune s'éloigne.
Bah oui, on est en train de la perdre. Bon, 3 cm par an, ça ne semble pas énorme, mais au fil du temps, bah oui, à un moment, on n'aura plus de Lune et peut-être que ça va aussi contribuer à changer le climat sur Terre dans quelques millions d'années.
Dans quelques millions d'années.
Oui, mais rassurez-vous.
On ne sera plus là, ni vous ni moi. Alors, on peut dire que Mars a eu moins de chance que sa grande sœur, la Terre. Elle avait, comme chez nous, des volcans qui ont généré des vapeurs d'eau, comme chez nous. Mais Mars n'a pas bénéficié des 1001 paramètres qui ont fait que la Terre a pu générer de la vie. Il n'empêche que le fantasme d'une vie extraterrestre, des martiens, a perduré pendant des décennies. Et puis, le jour où on a pu envoyer des robots sur la planète rouge pour assouvir une croyance populaire, et là, c'est le drame.
Parce que l'homme était convaincu depuis plusieurs siècles qu'il y a de la vie partout dans l'univers, il y en a partout dans le système solaire. Et les gens ont souvent pensé que Mars était la plus favorable pour avoir abrité les conditions du vivant. Et il a fallu plusieurs échecs dans ces expériences-là pour que les gens réalisent que finalement, cette idée qu'il y a de la vie partout, eh bien cette idée-là a fait long feu. C'est très récemment que les missions spatiales ont montré que c'est une toute autre approche que l'on doit avoir avec les missions, avec la planète Mars.
Les prochaines missions d'exploration de Mars ne vont plus chercher une vie actuelle, mais plutôt les traces d'une vie passée. C'est le but de l'ambitieuse mission européenne ExoMars et de son laboratoire mobile.
Et vous-même, vous avez été déçu par ces révélations. Est-ce que ça a brisé vos rêves d'enfant? On n'imagine pas que vous n'ayez pas cru aux extraterrestres, aux petits hommes verts et aux martiens quand
oui,
vous étiez minot.
C'est vrai, je le confesse, Philippe, j'étais fanat de SF. J'ai été bercé par Isaac Asimov et Ray Bradbury quand j'étais gamin. Mais non, mais Mars, en fait, c'est vraiment la planète qui a mal tourné et qui résume très bien, en fait, le changement de paradigme, le changement de notre regard sur la vie extraterrestre. Ça a commencé avec Schiaparelli, c'était au 18e, 19e siècle. Et bon, il y avait une erreur d'optique dans les télescopes qui faisait qu'on pensait, on voyait des canaux sur Mars.
Ouais.
Et en 67, quand les premières sondes en orbite autour de Mars ont commencé à nous envoyer des images, là, ça a été la douche froide. Ça a été une déception monumentale. Il n'y avait rien, alors qu'on s'attendait à voir des petits martiens qui allaient nous faire coucou à la sonde en orbite.
Et les canaux, c'était quoi? C'est des phénomènes naturels en ligne droite?
Absolument pas. C'était même une erreur optique. C'était un problème dans les lentilles.
Les lentilles optiques, hein, pas les lentilles qui se mangent. Il est dit dans votre film que Jupiter aurait dû être dans le système solaire à la place de la Terre.
Oui.
Mais que Saturne l'en a empêché à cause d'un jeu gravitationnel un peu compliqué, mais qu'on arrive quand même, on arrive quand même à comprendre. Est-ce que vous nous aidez à comprendre ce phénomène? Et est-ce que ça veut surtout dire qu'on aurait dû naître ici, sur Jupiter, avec ce studio?
Eh bien, en fait, je pense qu'on ne serait quasiment pas né, en fait. Parce que sur Jupiter, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à trouver un endroit qui soit confortable et habitable. Mais en fait, ce que vous expliquez, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 2000 et qui nous a aidé à comprendre l'histoire complexe du système solaire. Et là encore, c'est une histoire où on a eu un coup de bol monumental. Puisque Jupiter, la méchante au début du système solaire, a commencé à tomber en spirale, à dériver, à venir à l'intérieur du système solaire et à menacer notre emplacement. Il faut imaginer une énorme boule, comme une énorme boule de neige, qui roule et qui amasse, qui avale toute la matière sur son trajet. Et en fait, Jupiter, ce qui allait devenir Jupiter, s'est rapproché de la Terre, est arrivé à la hauteur de Mars, a commencé à agglomérer plein de matière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mars est aussi petite, puisque Mars fait 1/10 de la masse terrestre. C'est parce que Jupiter l'a grignoté. Et Saturne est arrivé et a donné un coup de pied dans les fesses de Jupiter et a fait sortir Jupiter de son orbite. Et du coup, la Terre a pu continuer à grandir et à préparer un habitat dans lequel un jour il y aurait un studio bleu et un Philippe Bandel.
Vous en parlez de ces planètes comme si elles étaient vivantes. Vous avez une formation de scientifique, vous avez quelle formation ?
Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit et puis j'ai fait des études scientifiques. J'ai étudié de la biologie avant de mal tourner et commencer à faire de la radio libre plus que de la télévision.
D'accord, mais vous savez que les planètes n'ont pas de fesses dans lesquelles on peut mettre des coups de pied.
J'en suis pas sûr, Philippe.
Voilà. De quoi vous êtes sûr ? Je vais vous dire le sens de ma question. Mm-hmm. Ce qui est à la fois formidable et déconcertant dans votre documentaire « Et si la Terre était unique », c'est cette propension à déclarer de façon quasi certaine des faits scientifiques tout en tempérant tous ses propos avec du conditionnel et des peut-être petites compilations.
Beaucoup notamment de scientifiques partent du principe que si on a de l'eau, de la matière organique et un petit peu d'énergie, ça peut être des conditions suffisantes pour obtenir l'émergence de vie quelque part ou avoir la vie. Mais ça, je pense que c'est faux.
Pour passer de l'inerte au vivant, il faut un ensemble de conditions environnementales spécifiques que nous commençons tout juste à entrevoir. Il y a 4 milliards d'années, la chimie de la vie a peut-être commencé dans de petites flaques balayées par le ressac.
Beaucoup d'hypothèses sur la formation, les origines de la vie suggèrent cette idée-là. On avait des marées qui ont permis aux molécules organiques de se rassembler pour peut-être démarrer la vie.
Beaucoup d'hypothèses donc, et c'est bien normal, doute méthodique. De quoi vous êtes certain vous-même ?
Oui, toujours avec les scientifiques, c'est un espèce de jeu de chat et de la souris, parce que à la fois, il y a une nécessité de faire des documentaires qui soient exacts, en tous les cas, à ce que nous savons à l'heure actuelle, puisque la science se remet toujours en question. C'est ça qui est intéressant dans la science, et qui peut parfois même être un petit peu déceptif pour le grand public qui s'attend à avoir des réponses. La science ne donne pas des réponses. Je pense d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, il faut se méfier des gens qui nous donnent des réponses catégoriques. La science nous suggère des hypothèses, elle nous donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure, et je pense qu'il faut saisir ces clés et lutter quelque part contre les brumes, le brouillard dans lequel nous semblons nous enfoncer.
Ça allait être ma question, est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer avec ce documentaire ?
Eh bien, le message, ce serait peut-être que nous sommes les enfants du hasard, les enfants de la chance, et que ça ne s'est probablement pas reproduit ailleurs à l'identique. Je laisse les téléspectateurs découvrir la fin du film, je ne vais pas la raconter, puisque nous avons essayé de vraiment raconter une grande histoire, je ne vais donc pas la déflorer. Mais s'il y a un message dans le film, c'est qu'il n'y a pas de planète B. Dans les années 80, on pensait que nous ne pouvions cramer notre planète et que nous trouverions forcément une planète vers laquelle émigrer. Et
non, je vous interromps. On pensait qu'on pouvait en une autre dans des centaines de milliers d'années. Mais vous dites même pas en rêve.
Non, c'est peu probable. Et je pense que l'écosystème merveilleux dans lequel nous évoluons, l'écosystème dont nous avons hérité, nous devons en prendre soin et éviter de le saloper parce qu'il n'existe pas d'autre écosystème. Par exemple, il y a une petite grenouille qui est en train de disparaître, une magnifique petite grenouille bleue qui mesure 3 cm. Vous allez me dire, une grenouille bleue, on s'en fout un petit peu, elle peut disparaître. Je ne la croise pas tous les matins et je ne la verrai probablement jamais. Donc je continue à rouler avec mon SUV. Mais non, en fait, cette grenouille bleue, non seulement elle a peut-être un rôle dans l'écosystème terrestre que nous ne comprenons pas, mais même nous avons une espèce de responsabilité. Si ça se trouve, cette grenouille bleue, c'est la seule grenouille bleue qui existe dans l'univers. Donc nous sommes responsables, quelque part, de l'écosystème qui existe sur notre planète, et prenons-en soin.
Merci beaucoup, Laurent Lichtenstein. Je rappelle le titre de votre film « La Terre est-elle unique ?» C'est une question. C'est ce soir à 20h50 sur France 2. Et nous, on aime bien ici ce qui est bleu. Merci d'avoir été avec nous en direct dans un instant sur la Radio Bleue, qui n'est pas bleue, qui est Europe 1, mais qui n'est pas la Radio Bleue, qui est un autre nom. On va parler immobilier de luxe. Ça m'apprendra à me lancer dans des trucs non écrits avec une famille à la tête d'une nouvelle émission sur TMC. Ça s'appelle L'Agence et c'est du grand, grand luxe. On sera avec les participants. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Philippe.
Bonjour Martin.
Bonjour.
Bonjour Valentin.
Bonjour Philippe.
L'Agence est une émission d'immobilier, mais totalement hors norme. C'est le quotidien d'une famille dans l'immobilier de luxe. Ça commence ce soir sur TMC. La moitié de famille est avec nous. On vous a salué. Sandrine, vous êtes la maman. Martin, vous êtes l'aîné des 4 enfants. Vous avez 31 ans. Valentin, le cadet du jour, 29 ans, parce qu'il y en a encore d'autres qui suivent. Avant qu'on parle de l'émission, un mot de votre histoire familiale personnelle. Écoutez, le plus simple pour situer la famille et l'émission, c'est d'écouter la bande-annonce.
Découvrez une famille pas comme les autres. 4 frères et leurs 2 parents, tous ensemble agents immobiliers de luxe.
Au départ, on n'était pas du tout dans l'immobilier, on n'y connaissait rien du tout.
Moi, j'étais institutrice et j'avais envie d'avoir un projet en commun avec mon mari. Et puis ensuite, les enfants nous ont rejoints les uns après les autres.
Yes! Dans l'immobilier de luxe, j'ai découvert des clients qui n'ont pas de limites.
Je vais noter toutes vos questions.
J'en préfère que vous ayez les réponses, en fait.
On travaille dans l'univers du luxe, mais le vrai luxe pour nous, c'est travailler en famille.
Bienvenue dans notre vie.
Baisser un tout petit peu le micro. Voilà. Sandrine, vous étiez institutrice. Comment vous êtes lancée dans l'immobilier de luxe avec votre mari, Olivier, et le reste de votre famille, les quatre enfants? J'ai pas cité Louis qui a 25 ans et Raphaël qui a 16 ans.
Écoutez, moi, jamais j'aurais imaginé travailler avec mon mari. Après, on s'est dit, on a les mêmes valeurs communes. On a envie d'une aventure humaine et familiale. Et donc, c'est vrai qu'on venait tous les deux d'un univers complètement différent. Lui, dans les télécoms et moi, institutrice. Mais voilà, on avait envie de ce projet familial. Donc après, les enfants nous ont rejoints, les uns après les autres. Et ce qui nous a permis d'avoir une vraie aventure familiale.
L'agence existe depuis combien d'années?
L'agence existe maintenant depuis 15 ans. Et voilà, donc c'est pas toujours les jours faciles. Voilà, quand j'en ai marre de mon mari, je l'envoie dans une visite très loin de Paris. Mais sinon, en général, ça se passe bien.
L'émission est produite par Réservoir Prod, qui produit déjà Maison à vendre et Recherche appartement ou maison. Comment vous les avez rencontrés? Ce sont eux qui sont venus vous chercher?
Oui, alors c'est eux qui nous ont repérés, en fait, hein, qui nous ont proposé de faire cette série. On n'a pas tout de suite dit oui.
Mais alors j'ai lu, vous allez me dire ça les garçons, j'ai lu qu'il y a eu un casting. Il y a eu un casting, ils vous ont demandé de faire quoi au casting?
On n'était pas au courant qu'il y a eu un casting.
C'est les stars du 14 septembre qui dit qu'il y a eu un casting d'agence.
C'était pas un casting, c'était plus une sorte de petite vidéo, petit trailer pour voir comment les choses se passaient. Et puis après, on s'est réunis en famille, comme d'habitude, pour prendre une décision. Et voilà, on s'est lancé.
Alors moi, j'ai vu, je dois dire, c'est absolument somptueux ce que vous vendez. On a envie d'habiter partout, même la pire des maisons, on en rêve. quel type de bien vendez-vous, en quelques mots, et qui sont vos clients? C'est des gens très aisés.
Alors nos clients, c'est pas des extraterrestres. Hein, ouais. On a de tout, on a des entrepreneurs, des artistes, des familles. C'est sûr qu'on a des clients qui sont assez aisés.
Et donc Lisa, par exemple, elle veut acheter une maison à Paris ou alentour. Elle a 35 ans, elle a 8 à 10 millions de budget. Elle est présentée comme chef d'entreprise. Je lui dis dans quoi elle bosse, parce que moi je connais personne dans le showbiz. Même les comédiens très bien payés, ils n'ont pas 8 à 10 millions de budget pour acheter une maison. Elle bosse dans quoi?
Bon, je vous rassure, tous nos clients n'ont pas ce budget.
Je sais, mais quand même, elle est dans le premier épisode. Ça m'a frappé.
Elle est créatrice d'une marque de lingerie qui cartonne, qui est magnifique.
Voilà. Alors j'ai vu l'émission, j'ai vu les deux premiers épisodes. Qui fait visiter la maison à Lisa? Je ne me souviens plus.
C'est moi. C'est Valentin.
C'est Valentin. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Elle vous dit qu'elle a 10 millions et qu'elle cherche de l'ancien. Et vous lui présentez, en bateau, arrivée splendide, une grosse maison moderne, un gros cube en béton à 12 millions. Je me suis dit, soit c'est pour mettre en scène le spectacle de son refus, soit vous accréditez la thèse que les agents immobiliers pensent qu'à eux, ils ne nous écoutent pas.
Non, en fait, c'est souvent dans l'immobilier le cas, c'est que nos clients ont un cahier des charges très précis, ils nous envoient un mail avec des critères.
Non, mais déjà la somme, si la banque vous dit j'ai droit à cette somme, on ne peut pas en avoir plus.
Bon, après, c'est vrai que dans des gros budgets comme ça, on se dit s'ils peuvent mettre un peu plus, je pense que voilà.
Ils n'auront pas trop
le temps.
Ils n'auront pas trop de temps.
Non, mais là, pour dire la chose, vous saviez que vous alliez vous prendre un râteau? Ou est-ce que vous étiez avec la prod? Non, tant mieux, on va mettre en scène ça, le fait que ça ne lui plaise pas.
Bah, c'était une stratégie, c'était soit de la conforter dans ce que j'allais lui montrer après, soit, justement, je vous dis, ils ont des cahiers des charges et en fait, ils ne choisissent pas du tout ce qu'ils avaient imaginé auparavant. Et ils peuvent avoir un coup de cœur pour quelque chose complètement différent.
C'est surtout qu'elle cherchait des bureaux et que cette maison, en fait, était vendue avec les bureaux à côté. Donc c'est pour ça que c'était plus cher.
La maison était magnifique et la suivante, elle est magnifique aussi. Hein. Il y a même des gens très connus, parce que dans l'épisode numéro 1, il y a Fabrice Lucchini en personne. Alors Lucchini, il cherche des bureaux dans Paris. Alors vous lui trouvez ça pour 850 000 euros, je pense à tous les gens qui nous écoutent, à 10 000 du mètre dans Paris, ça nous ferait 85 mètres carrés. Mais là non, il a seulement 55 mètres carrés pour des bureaux à 850 000. Il y a des gens qui nous écoutent en région qui disent « on est chez les dingues ».
Alors il y avait l'appartement, mais il y avait aussi le rez-de-chaussée, et ça je lui avais pas dit, parce que s'il voulait l'appartement, il devait aussi acheter l'ébénisterie en dessous.
Alors là j'ai pas compris, il y a une ébénisterie en dessous, et Lucchini il arrive, vous êtes avec lui, et il découvre qu'il y a ça à acheter. Pourquoi vous ne lui dites pas avant? Là aussi, c'est que vous faites de la télé.
Non, c'est ce que je pense que si
vous
je lui avais
même dit, rire votre frère.
Si je lui avais dit avant, il ne serait peut-être pas venu visiter. Donc c'est vrai que c'est un peu notre rôle, c'est d'amener nos clients sur des projets auxquels ils n'auraient pas forcément pensé au départ. Et là, c'est vrai que Fabrice Lucchini, au départ, il venait acheter des bureaux très simples. Ouais. Hein, et se retrouver avec une ébénisterie sur les épaules, c'était pas du tout son projet, mais il s'est pris d'affection pour ses artisans qui fabriquaient des meubles pour l'ambiance de l'atelier, et je pense qu'il a voulu sauver cette ébénisterie, parce qu'il y en a, c'est une des dernières à Paris en fait.
Ah mince, alors vous m'avez spoilé, parce que moi j'ai vu que les deux premiers épisodes on n'avait pas la réponse, donc je pense qu'il l'a acheté, ça doit être dans l'épisode 3 ou 4.
On l'a pas
vous
dit,
faites
ça.
La
on
visite.
L'a pas dit,
mais je crois qu'il en a déjà parlé.
Vous faites la visite et Fabrice Lucchini découvre chez vous une expression.
En faisant un minimum de travaux pour des bureaux, si on veut vraiment avoir un open space, par exemple.
Un quoi ?
Un open space.
Je sais pas ce que c'est.
C'est une surface de bureau avec tout.
Vous n'allez pas m'employer le mot pièce à vivre, si ?
Non.
Parce que moi, j'ai pas besoin de pièce à vivre. C'est un terme que je déteste chez les agents immobiliers. Ils disent toujours, il y a une pièce à vivre.
Ouais.
Une pièce, c'est plutôt pour vivre, à moins de mourir dedans. Bon.
Alors, vous utilisez le terme pièce à vivre ou pas ?
C'est pas moi qui l'ai utilisé. Ouais. Pour le coup, le mot potentiel, c'est vrai qu'on l'utilise pas mal dans la famille, mais on a des clients qui ont parfois du mal à se projeter. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler qu'il y a du potentiel dans certains biens.
Ouais.
C'est important.
Voilà. Mais pas de pièce à vivre.
Pas de pièce à vivre.
Non. Mais c'est vrai que parfois, c'est exaspérant l'éthique de langage des gens de l'immobilier.
Ouais,
on va en retrouver d'autres. J'en ai repéré un autre. Vous restez avec nous. À tout de suite. C'est l'agence qui est en direct dans Culture Média. Un petit studio. On a quoi ? On a 20 mètres carrés. C'est peut-être pas assez pour vous. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Sandrine, Martin, Valentin sont avec nous encore. C'est que la moitié de l'agence. Il y en a encore deux autres et le papa, le patriarche qui s'appelle Olivier qui nous écoute. Vous avez monté une agence il y a une quinzaine d'années. Agence d'immobilier de luxe, des très très beaux biens avec des clients d'exception. Et c'est ce soir sur TMC, c'est le premier épisode. On parlait de tic de langage. On est sûr du tic de langage. La preuve.
Et puis on a la salle de sport. Voilà, et là on arrive sur la chambre parentale de 50 mètres carrés.
Pourquoi vous dites on arrive sur la chambre parentale ? Pourquoi vous dites pas on arrive dans la chambre parentale ? Pourquoi ce tic de langage ?
C'est une déformation professionnelle,
ouais,
je crois.
Ouais. C'est ça. Non, c'est
sur le même niveau.
Sur le moment, avec un client comme ça, on pense pas forcément à tout ce qu'on dit. Ça sort, ça vient.
Il a fait une école d'ingénieur en même temps.
C'est vrai. Ouais. Dans quelle mesure l'émission est scénarisée ?
Alors, c'est pas scénarisé, c'est vraiment une immersion. Donc, c'est-à-dire que quand on sent qu'on va avoir une grosse journée, on appelle Réservoir Prod,
ouais.
qui sont rendus vraiment très disponibles, parce que c'est, à l'immobilier, c'est vraiment, ça change tout le temps.
Mm-hmm.
C'est pour ça que c'est marrant, on n'a jamais le même quotidien.
C'est un peu une caméra embarquée.
Voilà, ouais, et donc ils débarquent et ils nous filment toute la journée. Et puis à la fin, on voit ce qu'on a et si c'est cool, on garde.
Comment vous arrivez à obtenir que les people acceptent d'être filmés ? Je pense notamment à Fabrice Lucchini et il y aura dans une prochaine que je n'ai pas vue, Laurent Deutsch. Les gens que je connais et qui ont les moyens et qui font ce métier-là, ils n'ont aucune envie qu'on les voit dans la vie quotidienne et surtout pas quand ils sont en train de parler d'argent. Comment vous avez dealé avec Lucchini ? Comment il a accepté d'être filmé ?
Bah, je pense qu'avec nos clients, on établit un tel niveau de confiance, de relation.
Mais justement, je vous interromps. Au contraire, c'est le cœur du sujet. La télévision, c'est quelque chose de public. Et l'immobilier, surtout ce que vous faites, c'est quelque chose de privé.
De confidentiel.
C'est confidentiel, mais je pense qu'on est rentré dans leur univers. Eux aussi sont rentrés chez nous, ben, finalement, puisqu'en fait, on a une relation très humaine et des contacts très différents avec eux. Et je pense que c'est aussi pour nous remercier, nous faire plaisir et qu'ils se sentent.
Mais en l'occurrence,
ils ont l'impression de faire partie de la famille.
Lucchini découvre qu'il y a une caméra, ou est-ce que vous l'avez prévenu en disant on est suivi par une équipe ?
On lui a demandé, bien sûr, avant la visite. Après, je pense que Fabrice Lucchini, ça l'amusait énormément. Il aime bien. Voilà, on est dans le partage, nous, dans notre famille, et il a confiance en nous. C'est un programme qui est plutôt bienveillant. C'est une visite qui n'est pas comme les autres, qui est un peu loufoque.
Je précise que cela a permis de citer son dernier spectacle et de faire la promo. Il a cité Charles Péguy, donc il était vraiment très content. Et comme ça, on sait qu'il a un prochain spectacle.
Ouais. Il n'a pas besoin de ça.
Il y a ceux qui veulent partager leur patrimoine, ceux à qui ça fait rire, et puis ceux qui veulent nous faire plaisir, parce qu'on a des bonnes relations. En fait, c'est un peu un résumé. Non,
j'ai eu votre émission. Parfois, je ne vous ai pas cru, je vais vous le dire. Yves et Anan, il a 55 ans, elle en a 29, et ils veulent acheter une belle maison et vous les envoyez à Ibiza. Ils prennent l'avion pour aller à Ibiza. Ils arrivent dans la première maison, pharaonique, splendide. Elle vous pose la question, il y a combien de chambres ? Qui lui répond ? Je ne me souviens plus.
C'était
Valentin. Trois chambres. Là, elle fait la tête, elle dit trois, c'est pas assez. C'était pas possible de lui dire depuis Paris. C'est impossible, enfin.
Non,
on vous croit pas.
Bah, encore une
fois. Moi, jamais j'irai visiter une maison à 5 heures de Paris sans qu'on me dise le nombre de chambres et le prix. Et ils découvrent le prix. C'est invraisemblable.
Ouais, non, encore une fois, c'était pour leur montrer des produits vraiment très différents. Moi, je pensais qu'ils voulaient du terrain. Donc, celle-là avait énormément de terrain. Je me suis dit, bon, ils sont.
J'ai compris tout ça.
Construire une quatrième
Pourquoi
chambre.
Vous ne le dites pas avant ? C'est là où je vois que l'émission est scénarisée.
Ah, c'est sinon, on le dit.
Non, sinon,
sinon ils viennent
non,
pas.
Non, mais c'est surtout, on y allait vraiment là pour donc leur trouver leur maison et surtout l'expérience qui va avec. Donc il fallait garder des surprises, c'est-à-dire que tout leur montrer avant, c'était pas.
Oui, dans l'immobilier, faut pas tout montrer avant la visite. Faut quand même laisser une partie.
Non, mais quand même là, prendre l'avion.
Bah, ils ont visité 3 biens et ouais, vous verrez dans le programme. Et je pense qu'ils étaient satisfaits de leur déplacement à Ibiza. Ouais. Mmh.
Alors, il y a des séquences plus télé-réalité, plus autour de vous. Comme par exemple, il y a le team building de toute la famille avec un coach. Il y a une séance de yoga et un bain dans de l'eau glacée. Est-ce que vous l'auriez fait s'il n'y avait pas eu la télé? Est-ce que, oui, avant de faire cette émission,
bien sûr.
Vous faisiez des séances de team building
bien
en famille?
Oui, bien sûr. Le coach, on va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire à vivre en famille. Et
ma question était, est-ce que vous l'avez déjà fait avant qu'il y ait la télévision?
Ah non,
parce que moi,
fait.
Je ne connais aucune famille normale qui fait du team building, une invention marketing des années 2000.
Quand on part en week-end ensemble, ça nous ressoude, etc. On part que c'est un peu un séminaire familial de temps en temps.
Des ascensions, on fait pas mal de choses.
Voilà. On fait des virées sportives entre frères, avec le père. Donc, ce qui nous permet de nous ressourcer, etc. Et puis, on parle de boulot dans un cadre différent.
Et là, ça va loin quand même. Parce que le papa, ils font en larmes.
C'est pour ça qu'il n'est pas venu aujourd'hui, parce que je pense qu'il aurait pleuré aussi sur le plateau.
Blague à part, vous n'avez pas demandé à ce que cette séquence soit coupée au montage, parce que nous, on est presque un petit peu gênés d'assister à l'intimité d'une famille. C'est gênant.
Tout le monde, il est humain, hein, tout le monde pleure. Voilà. Enfin, je veux dire.
Tout le monde ne pleure pas devant la télévision.
Ouais, mais on était tellement dans le truc que. Franchement, les caméras, on les a oubliées. Et quand on a vu la scène à l'écran, parce qu'on a évidemment vu
les épisodes... Je pense qu'il y a pas mal de pères de famille qui vont se retrouver dans cette scène.
Exactement, je pense que...
Dans ce passage.
Autre séquence savoureuse ou étrange, vous inscrivez la grand-mère Majo, qui est un personnage elle aussi, sur un site de rencontre sans la prévenir. Là, il y a plein de gens de l'immobilier qui vont dire « mais ça n'a rien à voir avec notre profession ».
Une agence matrimoniale ou une agence immobilière, il y a des similitudes finalement.
Ouais. Mais alors, est-ce que ça a marché?
Alors, on va pas le dire. Encore une fois, vous verrez dans les prochains épisodes. Mais en tout
c'est
cas,
bon
pour elle, c'est un bon début et elle adore faire
vivre.
Ça. On a des super relations avec elle. On l'aime comme tout.
5 épisodes, si je suis bien informé, ont été livrés à TMC. Il y en aura d'autres. Vous attendez quelle audience pour savoir si ça continue?
On n'est pas là à attendre vraiment l'audience. Nous, ce qui nous importe, c'est de vivre vraiment le moment présent. C'est une très belle, très 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 belle aventure familiale. Et puis on verra, voilà, si ça marche, il y a une deuxième saison.
Ça va cartonner.
Voilà. Et puis on va savoir si Majo a pécho, puisque ça rime. Merci beaucoup, Sandrine, Martin, Valentin. Je rappelle l'agence immobilière de luxe et du vrai grand luxe en famille. C'est ce soir. Sur TMC, attention, c'est à 21h15, pas 21h. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain. Bertrand Chamerois, qui vous aime beaucoup, pour son écran de veille. Là, cette fois-ci, il a regardé Olivier Véran hier soir sur BFM TV. Franck Tilliez, l'écrivain, sera avec nous, mais pas pour un roman. C'est pour le tome 4 de la BD La Brigade des Cauchemars. Et puis, dans les indispensables, un livre et un festival de piano. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.